Je veux parler des enfants. Je veux parler des bébés ce matin. Pourquoi? Parce qu'on nous inonde d'études à toutes les deux semaines sur l'anxiété des ados, sur l'anxiété des tout-petits, les problèmes d'attachement. Il y a eu cette nouvelle sur cet enfant rachitique. Des parents, pour des raisons philosophiques, ont décidé, entre guillemets, de s'occuper à leur façon. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion d'inviter notre pédiatre préféré, le docteur Jean-François Chicoine. Bonjour, docteur.
Bonjour, Paul. J'ai vu que Equifax demandait que je vienne vous voir. Alors,
oui,
c'est ça. J'ai répondu à l'appel d'Equifax.
C'est peut-être une façon de parler d'anxiété. Mais sérieusement, je veux qu'on parle de l'anxiété et des problèmes d'attachement. Mm-hmm. Est-ce que nos enfants sont si stressés que ça, autant qu'on le dit, ou en tout cas qu'on semble vouloir le montrer dans les études, selon toi?
Bien, une certaine quantité d'études qui a l'air à pointer vers une augmentation de l'anxiété, en général, pour des petites choses au sein des familles, par rapport à la sécurité familiale, par rapport à la sécurité financière aussi, qui devient facilement le miroir de toute une société au sein du microcosme familial. Mais il y a aussi les études, l'écologie, etc. Très clairement, on a l'impression que le stress en excès, qui donne donc des problèmes d'anxiété, est en train d'augmenter. Est-ce que c'est la disponibilité des parents, je parle pas de l'amour des parents, c'est-à-dire leur disponibilité pratique, physique, parce qu'ils sont sur le web, parce qu'ils ont des horaires prolongés,
les promène. Les parents de montagne, le 6 janvier, ils vont doubler le temps de déplacement le matin et le soir. Là. Oui. Ça veut dire moins de temps pour les
Avant,
enfants.
Avant, on disait 70 minutes par jour dans les transports pour la région montréalaise. Là, je pense que c'est rendu plus grand que ça. Et c'est sûr que le temps passé en auto, les journées, le peu de temps qui reste le soir, puis tout de suite les nouvelles technologies le soir, là, que ce soit le iPad, le téléphone, le courriel des parents, etc. Il y a quelque chose dans la disponibilité physique qui fait partie des fonctions parentales qui fait que sans le savoir, ben, les enfants se sentent moins, on dit, portés. Il y a des auteurs qui parlent de déficit de maintien, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils se sentent pas contenus par leurs parents. Et ils sentent pas que le dialogue est toujours possible, que le temps est devant eux. Le rythme de l'enfant, c'est quelque chose de très, très particulier. L'enfant a ses propres rythmes qui conviennent peut-être pas tout à fait à notre société. Reste que l'enfant se sent, à ce moment-là, parfois pas suffisamment sécurisé. Et là, il développe du stress. En fait, on a au centre de notre cerveau des petites amygdales cérébrales qui déchargent la peur, la colère et tout. Et quand l'enfant ne sent pas totalement la sensibilité, la disponibilité ou la capacité de ses parents de l'accompagner, il peut développer de plus en plus de stress.
Si on ajoute ce constat, par exemple, aux réseaux sociaux. Parce que, j'allais dire, quand on était plus jeune, si on était victime d'intimidation, ça arrêtait le vendredi à 5 heures, puis ça reprenait le lundi.
C'est très clair que dans 5 à 10 ans, on va comprendre que les réseaux sociaux, moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui a le plus détruit la vie des familles. Parce que on sait en termes de temps ce que ça prend. Et on sait que les enfants sont exposés très jeunes, à 1 an, 2 ans, 3 ans, contrairement aux recommandations. Les réseaux sociaux aussi, ils sont sur des appareils portables avant. T'sais, on a souvent parlé de trop de télévision et tout, mais la télévision, elle restait à une place. Là, ça se promène. Ça se promène à table, ça va dans la chambre à coucher, ça se promène aussi lorsqu'on fait une promenade, il y a des téléphones qui sonnent et tout. Alors, ce déficit d'attention-là pour les gens qui sont autour de nous, parce que l'attention est captée, c'est tout un marché financier, capter l'attention. C'est clair que les enfants qui ont des besoins développementaux différents des adultes, ils se retrouvent pas suffisamment remplis par leurs parents. Il faut absolument que les parents comprennent que lorsqu'on est avec les enfants, ben on prend pas le message. Lorsqu'on mange ensemble, ben on ferme la télévision. On n'apporte pas des appareils électroniques. Très clairement, les appareils électroniques transportés dans les chambres à coucher très jeunes ou à table, diables sont reliés à des problèmes d'obésité, à des problèmes de difficulté de sommeil, parce que le sommeil aussi se rétrécit comme une peau de chagrin, et à des problématiques d'anxiété. Il y a du bruit, et on est dans une société de bruit, même à Sainte-Justine, les gens, des fois, peuvent plus m'entendre de dire que les télévisions sont ouvertes dans les chambres 24 heures sur 24. Les parents sont sur des appareils portables et tout. Puis là-dedans, ben, y a un petit bébé qui essaie de grossir ou qui a une bronchiolite. Y a beaucoup de distracteurs maintenant. Et le développement de l'enfant fait qu'il a besoin d'une proximité qui est physique et qui est émotionnelle aussi avec son parent. Et je pense qu'à ce niveau-là, y a une certaine population qui commence à développer un petit peu de symptômes de stress. Évidemment, il y a des enfants qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Ceux qui vont avoir un TDAH, ceux qui vont avoir un autisme, les grands prématurés. On a de plus en plus d'enfants avec des maladies chroniques qui survivent. Il y a aussi des contextes de vie, la monoparentalité, la littératie, etc. Très clairement, dans les études, on peut plus parler juste de nombre d'heures sur les appareils. Il faut voir aussi les facteurs de risque qui sont autour, puis ce qu'on fait pas, en fait, on appelle ça la réduction des méfaits chez les adolescents, c'est-à-dire que qu'est-ce que ces activités-là sur les appareils électroniques nous empêchent maintenant de faire? Est-ce que c'est manger? Est-ce que c'est avoir des bons résultats scolaires? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est aller dehors? Est-ce que c'est parler avec des amis? Clairement, c'est plutôt ce qui est enlevé qui donne du stress que ce qui est rajouté.
Mais j'allais te dire, parce qu'on a eu aussi des pédiatres qui sont sortis en disant il y a trop de diagnostics de TDAH. Il y a des enfants qui sont catalogués avec un trouble du spectre de l'autisme. Oui. Mais c'est peut-être pas si vrai que ça. C'est peut-être des enfants qui socialisent moins bien que les autres, mais qu'on a tendance à trop mettre des étiquettes rapidement.
C'est absolument vrai. On est dans une société qui aime les diagnostics et les diagnostics psychiatriques et les diagnostics psychopsychiatriques, si je puis dire. C'est que entre la normalité puis la maladie mentale, il y a toute une échelle de 0 à 100. Et de plus en plus, on cherche des diagnostics. Mais c'est difficile de porter un diagnostic à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans. On est encore dans un enfant qui se développe. Il y a beaucoup de maladies, moi, pour lesquelles je vais refuser de porter un diagnostic avant l'âge de 10, 12 ans. J'ai une pensée diagnostique, j'ai un cheminement, mais comme le cerveau est encore en développement, les neurones se reproduisent encore, ça sert à rien d'arrêter le temps à ce niveau-là. Et tout est confondu en ce moment. Par exemple, il y a à peu près 6 ou 7% d'enfants qui ont un TDAH. Mais on est rendu à 15% qui sont médiqués. Alors, il faut comprendre que le déficit d'attention, ça veut pas dire un TDAH. On peut manquer d'attention parce qu'on est justement, on a porté notre attention sur un appareil électronique, ou parce qu'on n'a pas assez dormi, ou parce qu'on a faim, ou parce qu'on a une problématique dans notre famille, notamment, par exemple, une séparation parentale ou un déménagement même chez un enfant. Tout ça donne des déficits d'attention. On a beaucoup d'enfants aussi qui, en plus de leur déficit d'attention, sans avoir un TDAH, je dis bien, là, ont des problèmes d'autorégulation parce que la discipline a été un petit peu débonnaire à la maison, parce qu'on n'a pas osé non plus les instruire, les cadrer, parce qu'on ne les a pas vus de la journée. Puis, la maison, ça devient un free-for-all le soir. Donc, tous ces éléments-là sont actuellement confondus avec une intolérance des adultes pour la différence, et ce qui fait qu'on se retrouve dans des écoles actuellement avec des trajectoires spécialisées pour le quart ou même le tiers des enfants. Moi, je leur dis, écoutez, la majorité de ce que vous allez faire va s'appliquer à des enfants. Arrêtez de faire des bilans spécialisés puis des trajectoires pour chacun des enfants.
Ça marche avec le financement. Si ça marche avec le financement,
c'est ça.
Là, j'ai une ressource.
Alors, c'est très difficile d'avoir des ressources sans avoir de diagnostic. Et actuellement, on est en train de diagnostiquer plein d'enfants avec le TDAH et l'autisme. L'autisme, là, moi, dans ma passion, je les appelle mes nouveaux orphelins du Plessis. Avec Duplessis, on avait des enfants institutionnalisés, et puis pour avoir des services, on a décidé qu'ils étaient déficients mentaux, déficients intellectuels qu'on dirait aujourd'hui. Alors, on les a appelés les orphelins du Duplessis. Aujourd'hui, pour avoir des services pour des enfants qui, par exemple, sont en famille d'accueil, viennent de la DPJ ou sont adoptés à l'international, qui ont, je dirais, des symptômes d'hospitalisme qui ressemblent à l'autisme et qui n'en ont pas, ben, il faut donner des diagnostics. Par exemple, en adoption, au lieu de 1 à 2% d'autisme qu'on a dans une population, et déjà, c'est beaucoup plus qu'il y a 10, 20 ans, on est rendu à 10 à 15% d'enfants autistes. Autrement dit, on va chercher des enfants dans le monde, puis on les ramène ici, puis on dit, ah non, finalement, t'as passé 4 ans dans une institution, tu te balances un petit peu, tu regardes pas bien dans les yeux, tu es autiste. Donc on arrive à mettre des diagnostics tout le temps pour ça. Très clairement, il y a Laurent Motron qui travaille beaucoup sur l'autisme et tout. Il y a des psychiatres maintenant qui commencent à en avoir assez de l'autisme. Le problème, c'est qu'il y a des programmes pour l'autisme. Et là, on veut des diagnostics. Moi, j'ai plein d'enfants qui ont d'autres diagnostics. Je vais vous donner des exemples. Les infections à cytomégalovirus congénital.
C'est quoi ça?
C'est une infection qui peut être transmise de la mère à l'enfant. Ça donne des problématiques chez l'enfant au niveau développemental qui ne sont pas de l'autisme et pour lesquelles je n'ai pas de service. L'alcoolisme fœtal. L'alcoolisme fœtal, là, il y en a 5 à 10 fois plus que de l'autisme. Mais j'ai pas de service à offrir. Donc, si j'ai un alcoolisme fœtal, si je veux avoir de l'ergothérapie, par exemple, ou de l'orthopédagogie à l'école, ben, je suis obligé de dire qu'il est autiste. Actuellement, il y a un couloir vers l'autisme. Mais le diagnostic d'autisme, c'est pas quelque chose qui se fait avec des tests, simplement. C'est un diagnostic médical qui se fait avec l'aide des tests ou même sans l'aide de tests et qui à un moment donné...
Il y a tes collègues qui disaient que non seulement avec des tests, mais ça peut pas être sur une courte période de temps.
Mais non, c'est ça, c'est une évolution, c'est une trajectoire. Un enfant, c'est une trajectoire développementale. C'est pas quelque chose qu'on voit dans le temps. Si je prends le meilleur des enfants de 3-4 ans, si je le mets dans une, par exemple, une famille d'accueil déficiente pendant 6 mois, ben au bout de 6 mois, ben il va avoir des balancements, il va mal regarder dans les yeux, il va avoir un problème développemental et il va coter positif à un simple test alors qu'il est pas autiste. Donc il y a beaucoup beaucoup d'événements sociaux familiaux et qu'on met maintenant sous un chapeau diagnostique et on a une société qui cherche beaucoup des diagnostics psychiatriques. Puis à un moment donné, on a juste à recouper. On voit que 40% des enfants sont dépressifs, 30% des enfants aussi. Je me dis toujours, est-ce que c'est le même que toutes les statistiques? Parce que c'est beaucoup trop. Mais actuellement, c'est sûr qu'on diagnostique facilement deux fois trop de TDAH et probablement 2, 3, 4 fois trop d'autisme dans la population d'enfants. Bon. Ce qui n'empêche pas une souffrance haute. Là.
C'est sûr. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème.
Non, non.
Bon, on a parlé de ce cas. Je comprends que c'est marginal, c'est des cas vraiment rares, là. Mais en 2019, bientôt 2020, que des enfants soient sous-alimentés au point de ne pas grandir, il n'y a pas de croissance, parce que les parents ont adopté une philosophie de vie et d'alimentation qui est complètement pété. C'est rarissime, là. On voit pas ça souvent, j'espère.
Non, on voit pas ça souvent jusqu'à ce point-là. Par contre, il y a des philosophies de vie qui, naturellement, appartiennent à la famille et donc vont avoir des influences plus ou moins délétères sur l'enfant. Il y a des idéologies extrêmes. Et puis, il y en a toujours eu. Mettons que de nos jours, elles viennent de partout. Elles viennent d'Asie, elles viennent des groupes particuliers aux États-Unis. Elles viennent beaucoup des médias sociaux qui vont arriver. Mais un cas comme on le témoigne, c'est rarissime.
Donne-moi des exemples de ces philosophies ou de ces approches importées d'ailleurs.
Ben, actuellement, au niveau nutritionnel, on a quand même un monde en grande mouvance. On a de plus en plus de végétalisme, donc de vrais végétariens, ce qui est une bonne chose, que ce soit pour la planète ou même pour la santé, l'hypertension artérielle, etc. Maintenant, est-ce que c'est des gens qui ont fait un choix éclairé, qui savent comptabiliser leurs protéines, etc., ou si c'est une mode qui vient d'arriver? On voit ces modes-là dans certaines familles. On les voit chez les adolescentes qui veulent maigrir, donc il y a une confusion avec l'anorexie. Il y a aussi des modes à l'école. Mais dans les familles, il peut y avoir aussi des gens qui s'improvisent ou végétariens ou végétaliens, donc vegan, c'est-à-dire qu'ils ne mangent aucune protéine animale, ce qui est tout à fait compatible avec la vie normale dans une famille. On peut grandir vegan et tout. Sauf que c'est quand même une heure ou deux de plus par jour pour calculer les protéines. Puis il faut peut-être être à Montréal ou à Québec ou à Sherbrooke pour trouver tous les équivalents à ce niveau-là, au niveau alimentaire, parce qu'il faut tout calculer. Donc, quelqu'un qui s'improvise le moindrement là-dedans, ben, il peut se retrouver avec des déficits. Et puis, pourquoi il est là-dedans aussi? Est-ce que c'est pour des raisons religieuses? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est un anti-vaccinal en plus? Est-ce que c'est quelqu'un qui pense que la Terre est ronde? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ou plate? Parce qu'elle est ronde, Paul. Est-ce que c'est quelqu'un qui a aussi d'autres pratiques particulières?
Mais les campagnes plus anti-vaccins, ou moins... il y a eu comme des espèces de cycles. À un moment donné, ça part, ça arrête.
Ça part, ça arrête.
Puis là, à un moment donné, whoops, ça réapparaît dans le discours.
La campagne anti-vaccin a augmenté beaucoup depuis quelques années, notamment à cause de la France, où là, le taux de vaccination a baissé. Mais on voit que la rougeole a boomé en France. Elle s'étend maintenant dans plusieurs pays du monde. Il y a des épidémies, souvent données par les touristes à des populations des pays en développement qui sont sous-vaccinés. Il y a eu plein de morts à Madagascar, il y en a partout. Ça devient problématique, ce choix vaccinal de certains individus qui pourtant participent aux autres activités communautaires, que ce soit l'avion, l'école et tout. Alors, les antivaccinaux, mélangés avec certaines diètes particulières, tout ça donne des idéologies particulières, ce qui ne veut pas dire que tous les enfants ont besoin de tous les vaccins, ni non plus que les diètes extrêmes sont néfastes pour tout le monde. Mais reste que quand la science est mal comprise, puis quand là-dedans il y a de l'énergie, il y a des idéologies, il y a de la religion, il y a de la culture, c'est sûr que là ça met certaines populations plus à risque. On a un monde très bigarré maintenant dans nos hôpitaux, pas juste au niveau de l'ethnicité, mais au niveau des croyances. Là, tu sais, on n'a pas d'église à Sainte-Justine. On en avait une jusque dans 1968. On savait que tout le monde allait à la messe, puis que bon, voilà, il y avait peut-être pas de poisson à servir à l'hôpital le vendredi. Maintenant, il y a comme toutes sortes d'affaires.
Notre invité ce matin, le docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre à Sainte-Justine. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe devant la commission, Laurent, sur la DPJ?
Mm-hmm.
Les témoignages que tu as entendus, puis... As-tu des réflexions sur...
Oui, j'ai des réflexions, puis je la lis de traverse, parce que ça me fait trop mal. Ça fait des années que tout bon pédiatre doit, avoir affaire à la DPJ tous les jours. Je sais à quel point le travail de ces gens-là, quand il est bien fait, est lourd, complexe, et il peut être très bien fait. Mais je suis aussi, comme beaucoup d'individus, assez sensible au fait qu'il manque de monde, que la détresse est difficile à évaluer, que la formation continue de ce personnel-là qui a été sous-évalué à travers les années et qu'on est actuellement, en fin de course. Je suis très content de cette commission-là. Souvent, des commissions, ça peut être inutile. Là, t'en vois plus passer que moi.
Ouais.
Mais celle-là, à mon sens, va pouvoir éclairer un peu la difficulté non seulement de prendre en charge les bons enfants au bon moment et de distinguer les fausses plaintes ou les mais aussi va pouvoir peut-être nous permettre de mieux se retourner vers les besoins fondamentaux des enfants, c'est-à-dire arrêter surtout d'échanger de famille, peut-être arrêter de leur donner des visites très perverses de leurs parents biologiques lorsqu'ils sont mis en quelque part, et ça les détruit énormément, surtout quand ils ont moins de 2 à 4 ans, de remettre un petit peu comme on le fait pour le droit familial, le centre de la problématique au sein des besoins de l'enfant, et non au sein des parents biologiques ou de la famille
Ce qui est hallucinant, c'est de découvrir que des juges émettent des ordonnances qui sont spécifiques avec des services à donner à l'enfant. Ça ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de ressources et on ne le sait pas tant que l'enfant ne revient pas devant le juge.
Non, je sais qu'il y a des trucs qui sont annoncés par le juge. On voit des enfants qui doivent avoir certains services et qui les ont pas. Et c'est très difficile d'avoir des services pour les enfants, même qui sont sous la protection de la jeunesse. Moi, j'ai à suivre beaucoup d'enfants qui sont en placement à majorité ou qui peuvent éventuellement aller vers le trajet de l'adoption. Et souvent, je dis aux parents, essayez de pas les adopter tout de suite pour qu'on puisse avoir des services et c'est pas plus possible. Et les juges sont trompés un peu là-dedans. J'ai J'ai une grande sympathie pour les juges auxquels je parle, moi, quand je vais à la Cour de la jeunesse, parce que je trouve que les situations leur sont mal expliquées et qu'ils essaient, avec le peu d'informations qu'ils ont, de trouver la meilleure solution de protection pour les enfants. Mais la théorie de l'attachement, pour lesquelles on a été quand même parmi les premiers à faire le lien avec notre protection de la jeunesse, est quelque chose qui n'est pas bien saisi par tout le monde. Et comme les complexités des familles, la pauvreté et différentes situations viennent, je dirais, beaucoup chambouler la sécurité affective des enfants. Je trouve que cette théorie-là est pas tout à fait bien comprise par tous ceux qui sont en place et comprennent pas jusqu'à quel point l'enfant a besoin d'être sécurisé, d'avoir des besoins rapides
d'abord à l'enfant,
et tout dans son bas âge et que les symptômes viennent rapidement parce que au-delà de l'attachement, on sait maintenant depuis 10 à 15 ans à quel point les traumatismes, petits ou grands, peuvent affecter l'enfant, peuvent l'empêcher de dormir, lui donner des reviviscences, l'empêcher de fonctionner. Donc, à la fois les traumatismes et l'insécurité affective, tout ça va construire des enfants dont le développement va être affecté longtemps. Et si, comme société, on s'occupait juste de sécuriser le développement de tous les enfants qui poussent, ben ça va être ma phrase de la fin, ça irait mieux.
Je pense que tu as raison.
Je ne sais pas si c'est fini.
C'est fini.
OK, c'est fini.
Ça finit souvent comme ça.
Ça finit comme ça.
Mais tu reviendras.
Merci, ça me fait plaisir, Paul. Puis merci de témoigner de tout cela. Je t'entendais ce matin dire que bon, certains parents, au niveau de la violence familiale, ne pouvaient pas entendre. Il y a une manière de dire les choses, mais toutes ces choses-là doivent être sues.
Je pense que oui.
Cette curiosité-là du monde médiatique, elle participe beaucoup à la sauvegarde des enfants.
Merci, Doc.
Merci.
Docteur Jean-François Chicoine de l'hôpital Sainte-Justine. On va faire la pause, puis on vient en conclusion.